Merci de nous rester fidèles. Et madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Des bénéficiaires de la politique de gratuité des soins se plaignent et trouvent difficilement les médicaments. À la 9e avenue de la zone Buiza, en commune Mukaza, les déchets ménagers ne sont pas enlevés. Cela fait 3 mois. Des autorités à la base parlent de changement de société collectant ces déchets. Un politologue et enseignant d'université suggère la résolution des défis qui hantent le peuple tanzanien dans le but de prévenir les conséquences néfastes sur la communauté est-africaine. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Page santé pour débuter cette édition. Le problème d'accès aux médicaments prescrits par les médecins est le principal défi qui hante les patients concernés par la politique de gratuité des soins au Burundi. Certains parents en quête de soins pour leurs enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes rencontrées à l'hôpital de district de Kamenge, Dikwaniba, se plaignent qu'ils sont orientés vers d'autres pharmacies pour acheter des médicaments à part ceux de lutte contre la malaria. Tout en saluant les soins médicaux offerts, il plaide pour la disponibilisation des médicaments au sein des hôpitaux qui accueillent les bénéficiaires de ce programme de santé publique. Le point avec Omer Ndouayo.
Ces mères bénéficiaires des soins pour leurs enfants expriment leurs inquiétudes face à l'indisponibilité de certains médicaments. Elles expliquent devoir parcourir de longues distances à la recherche de ces médicaments dans les pharmacies.
Si l'enfant souffre de la malaria, l'hôpital te donne des médicaments. Mais s'il s'agit des maladies autres que le paludisme, il t'envoie à la pharmacie pour s'en acheter. Nous espérions trouver ces médicaments gratuitement, ce qui n'est pas le cas.
Certains services sont gratuits. En ce qui concerne les médicaments, l'hôpital ne te donne pas ceux qui sont chers. L'on te dit plutôt de les chercher dans les pharmacies. Là, tu peux passer sur 2 ou 3 pharmacies sans trouver ces médicaments. C'est fatigant.
Cette autre femme, originaire de Rugombo, venue accompagner une amie enceinte, témoigne à son tour, affirmant qu'elles ont été prises en charge sans frais.
Nous avons été transférés depuis un centre de santé. Arrivés à cet hôpital, ils nous ont bien servi sans frais. Nous allons payer 5 200 francs seulement, représentant les frais de sortie de l'hôpital.
Ces dernières demandent que les médicaments soient disponibles en quantité suffisante dans les centres de santé.
Nous demandons à l'État d'accomplir pleinement ce programme, que tous les services soit gratuit pour ces groupes de gens.
Nous sommes informés que tout est gratuit. Lorsque ça devient le contraire, ça ne marche pas. Vaudrait mieux nous informer sur les médicaments gratuits et ceux qui ne le sont pas pour nous mettre au courant.
Le programme de gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes vise à réduire la mortalité au sein de ces groupes vulnérables.
Omer Ndouayo, et lors de la présentation des rapports de performance et d'exécution budgétaire des 3e et 4e trimestres de l'exercice 2024-2025, le ministre des Finances, Alain Dikoumana, a estimé qu'il est nécessaire de réviser la politique de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent, une politique adoptée en 2006. Le ministre des Finances a souligné que cette politique entraîne des dépenses publiques très élevées, contribuant ainsi au déficit budgétaire de l'État. Selon lui, serait préférable de recentrer cette mesure sur les populations les plus vulnérables afin d'en garantir la durabilité et l'efficacité. hygiène et assainissement de cette édition. Les habitants de la zone urbaine de Bouiza, particulièrement à la 9e avenue, indiquent qu'ils viennent de passer 3 mois sans que les déchets ménagers soient collectés par des sociétés chargées de l'hygiène, alors qu'ils payent mensuellement afin que ces déchets soient enlevés. Ils craignent des maladies liées aux mains sales. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Certains habitants de la zone Bwiza située dans la commune Mukaza, province de Bujumbura, se disent préoccupés par le fait que cela fait plus de 3 mois que les déchets ménagers ne sont plus collectés dans leur ménage. Ils craignent que cette situation entraîne des maladies liées au manque d'hygiène.
Ça fait plus de 3 mois sans que le véhicule chargé d'évacuer les déchets ménagers ne vienne ici les enlever. Lorsqu'ils viennent, ne s'arrête que là-bas à Nyakeo.
La question des déchets ménagers ici dans la zone urbaine de Bwiza est devenue casse-tête. Souvent, nous sommes attrapés par les maladies liées au manque d'hygiène, comme le choléra et d'autres maladies.
Ces habitants affirment ne pas comprendre comment les déchets ne sont pas ramassés alors qu'ils continuent de payer chaque mois les frais destinés à ce service. Ils demandent aux autorités compétentes de rétablir la collecte de ces déchets comme auparavant.
Nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre ce programme d'assainissement de la ville de Bujumbura et d'autres villes afin d'évacuer ces déchets ménagers dans tous les ménages.
De leur côté, certaines autorités locales de la zone urbaine Bwiza que nous avons contactées expliquent que le contrat avec l'entreprise chargée de ramasser ces déchets ménagers est arrivé à expiration. Ils précisent qu'à la suite d'une réunion tenue avec les responsables de la commune Mukaza, il a été décidé qu'une nouvelle entreprise sera bientôt sélectionnée pour assurer la collecte des déchets ménagers dans cette localité.
Parlons toujours hygiène. Certains citoyens travaillant, opérant près du marché Kotebu situé en zone Ngagara au nord de la ville de Bujumbura estiment que la mesure punissant ceux qui se soulagent dans des endroits inappropriés et ceux qui fument dans des lieux publics a été prise trop tôt. Le gouvernement aurait dû d'abord construire des toilettes publiques ainsi que des espaces réservés aux fumeurs. Suivez son micro-trottoir.
Je ne comprends pas pourquoi l'État s'est précipité pour prendre cette décision. Car, en général, les gens s'arrêtent dans les forêts pour se soulager puisqu'il n'y a pas de toilettes publiques. L'État devrait d'abord construire des toilettes publiques que les gens puissent utiliser, car les femmes qui viennent à Bujumbura ont souvent du mal à se retenir puisqu'elles ne connaissent pas bien les lieux. Cette décision était nécessaire car dans une ville, nous devons vivre dans un environnement propre. Il est difficile d'interdire complètement, mais la décision du gouvernement de punir ceux qui jettent les déchets n'importe où est une très bonne chose.
Normalement, ce sont des règles, mais l'État devrait d'abord mettre en place des endroits où les gens peuvent se soulager. Maintenant, on dit qu'ils vont infliger des amendes à ceux qui urinent dans des lieux non prévus à cet effet, mais selon toi, ces amendes sont-elles justifiées alors qu'il n'y a même pas de toilettes publiques? On peut marcher plus de 15 km sans en trouver une seule. Pense-t-il qu'on pourrait s'empêcher d'uriner dans un endroit non autorisé? La mesure est bonne, mais il devrait d'abord construire des toilettes publiques avant de sanctionner les gens.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
18h09 dans le studio de la radio Isanganiro. La période que traverse la Tanzanie risque d'engendrer des conséquences au sein de la communauté est-africaine, y compris le Burundi. Une analyse d'un politologue et enseignant d'université sur base des manifestations qui ont marqué les présidentielles dans ce pays, des présidentielles remportées par Samia Suluhu Hassan. Docteur Guillaume Nguengurutse indique que le consensus qui a longtemps marqué ce pays a été fragilisé ces dernières années, notamment en écartant certains acteurs aspirants à un certain changement suivi.
La Tanzanie est un État qui a évolué depuis son indépendance sur base d'un certain consensus qui a permis à la Tanzanie de rester stable, de ne pas connaître les soubresauts que les autres États africains nouvellement indépendants ont connus. Mais ces dernières années, on a constaté que ce consensus national se dégradait progressivement, fondamentalement sur base du fait qu'il y a certains acteurs qui estimaient que la ligne de gouvernance qui était imprimée dans le pays n'était pas convenable et qui ont commencé à aspirer à un certain changement. C'est une évolution majeure dans la politique de ce pays qui était resté stable. On ne peut que faire le constat d'une évolution qui n'est pas de nature à renforcer le processus démocratique dans ce pays.
Vous parlez de consensus et d'une évolution. Est-ce positif ou négatif?
J'ai dit que ce consensus s'est dégradé de façon progressive. C'est à déplorer. Au-delà d'une réflexion qui irait dans le sens de ce qui est positif ou négatif, la dégradation de ce consensus national est à déplorer, surtout pour un État qui avait pu évoluer sans connaître d'instabilité, comme ça a été le cas pour la plupart des pays africains et des pays de la région.
Quel impact cela pourra engendrer en général et pour le Burundi en particulier?
L'image d'un État stable qu'avait pu entretenir la Tanzanie jusque-là lui avait donné une certaine aura au sein de la région. La Tanzanie s'investissait beaucoup pour la paix dans les autres pays de la région. Aujourd'hui, avec cette évolution, si cela était amené à perdurer, il serait très difficile pour la Tanzanie de garder la même posture. Et puis, de façon particulière pour le Burundi, ne fût-ce que pour des aspects économiques, je pense que le Burundi a intérêt à ce que la Tanzanie reste stable du moment que les échanges commerciaux que nous avons actuellement passent fondamentalement par la Tanzanie.
Ce politologue recommande aux prétendants au pouvoir public de se pencher sur la résolution des défis qui hantent le peuple. Pour lui, c'est cela qui intéresse les peuples à l'état actuel. Poursuivons cette édition dans la suite de la lecture des dispositions du Code minier. Aujourd'hui, nous évoquons les articles parlant de la délivrance du permis de recherche dans une zone contenant des substances minérales. Ce code, c'est celui du 4 août 2023, portant modification de la loi du 15 octobre 2013. Lydie Gahimbare.
L'article 41 de ce code stipule que le permis de recherche est accordé par décret après délibération du Conseil des ministres. En cas de pluralité de demandes de permis de recherche pour un même périmètre ou pour des périmètres qui se chevauchent et en cas d'équivalence des capacités des demandeurs, au sens de l'article 43, le ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions donne la priorité. En premier lieu, au titulaire de l'autorisation de prospection lorsque le périmètre dérive d'une autorisation de prospection en deuxième lieu, en fonction de l'autorité de demande et des capacités techniques et financières. L'article 43 de cette loi stipule que l'octroi d'un permis de recherche des substances minérales est subordonné au capacité technique et financière du demandeur à mener à bien les recherches des substances pour lesquelles il est sollicité. Ces capacités sont définies et analysées pour le périmètre considéré par l'administration des mines et de la géologie qui donne un avis technique au ministre ayant des mines et carrières dans ses attributions. Le début effectif des travaux de terrain est subordonné à la présentation d'une étude d'impact environnemental simplifiée. Et l'article 44 de cette loi stipule que le demandeur doit soumettre au ministre ayant des mines et carrières dans ses attributions un dossier conforme aux prescriptions réglementaires et comportant notamment un programme général des travaux correspondant à la durée demandée et adaptée aux caractéristiques géographiques et géologiques de la zone en question. Des éléments permettant au ministre ayant des mines et carrières dans ses attributions de se prononcer sur ses capacités capacités techniques et financières à réaliser ce programme tel que l'éculcuvité des experts à aligner avec des diplômes certifiés et attestations de capacités financières. Il doit également présenter une étude d'impact environnemental simplifiée.
Lydie Gahimbare, page sécurité de cette édition. Deux personnes, un enfant et sa mère, ont été retrouvés morts ce mardi matin sur la colline Muzi, en commune Rumonge de la province Burunga, et deux policiers de la protection civile à Rumonge, dont un arrêté, sont poursuivis, accusés d'avoir rançonné six boutiquiers de la colline Murambi de cette même commune. Ceci a été rapporté ce mardi lors d'une réunion de sécurité animée par l'administrateur communal de Rumonge, une correspondance signée Jean-Pierre Misago.
Le corps de l'enfant a été découvert plongé dans un seau d'eau dans la maison parentale ce mardi matin et celui de sa mère a été par après découvert suspendu sur une corde dans un boisement des environs. Selon le chef de zone Marandia, on venait de décider de défoncer la porte de la maison pour savoir plus sur ce que seraient devenues ces deux personnes sans nouvelles d'elles depuis ce samedi, alors que leur maison d'habitation restait fermée. Dans une réunion de sécurité de ce mardi, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, a ordonné qu'il y ait des enquêtes approfondies sur ce cas, où le chef de ménage était parti s'embaucher en République unie de Tanzanie depuis des mois. En zone Burukiro, ce sont deux policiers de la protection civile Rumonge attrapés après avoir rançonné six boutiquiers de Murambi l'après-midi de ce lundi. L'un a été arrêté sur place à Burukiro et a été conduit au cachot de la police judiciaire de Rumonge pour être interrogé au moment où le deuxième conducteur de la moto à bord de laquelle il se déplaçait a réussi à passer dans les mailles du filet et reste introuvable selon le chef de zone Burukiro et la police de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Place à la chronique santé de ce mardi, elle est centrée sur l'impact du comportement parental sur la santé mentale de l'enfant. La psychiatre Godelie Venimoubona explique que les trois premières années de la vie sont cruciales pour le développement mental et émotionnel de l'enfant et souligne que c'est à cette période que se forment les bases de son équilibre psychologique et recommande aux parents d'interagir affectueusement avec leurs enfants au moyen de jeux, échanges et en posant des limites sans excès durant cette période. La chronique santé de ce mardi avec Ornella Mucho.
Dès la grossesse, les trois premières années de vie d'un enfant posent les fondations invisibles mais essentielles de sa santé mentale, de son équilibre émotionnel, de sa capacité à aimer et à être aimé. La psychiatre Godelie Venimoona, spécialiste en santé mentale, explique que plusieurs facteurs peuvent perturber ce développement, comme une mère qui vit une grossesse non désirée, qui se plaint constamment ou qui est maltraitée et entourée de paroles négatives. Tout cela peut affecter l'enfant dès le ventre. Il ajoute que même après la naissance, certains comportements parentaux peuvent nuire à l'autonomie de l'enfant.
C'est une période fragile parce que l'enfant est immature. Et s'il y a un attachement, donc parent-enfant ou bien deux autres premiers objets d'amour avec l'enfant qui sont bons, cela permet à l'enfant de grandir avec beaucoup de sécurité, dans l'amour, dans la joie, dans la sécurité, dans la protection. Mais si l'enfant grandit dans des moments difficiles, par exemple avec les familles qui ne s'entendent pas, donc ça va fragiliser l'enfant. Ça va entraîner une insécurité de l'enfant, ça va entraîner un inconfort et ça va faire que l'enfant peut avoir plus tard des problèmes à gérer, des difficultés qu'il rencontre dans sa vie.
parfois les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de baisser leur enfant, notamment lorsqu'ils le punissent de manière excessive, souvent parce qu'eux-mêmes vivent dans des conditions difficiles et déversent leur colère dans des familles marquées par des conflits où une mauvaise communication peut entraîner des conséquences visibles à l'adolescence. Un enfant qui n'a pas été comblé émotionnellement dès le plus jeune âge devient vulnérable à toute distraction négative qui se présente.
Il y a des parents qui peuvent traumatiser leurs enfants sans le savoir même. Parce qu'un parent qui intimide toujours son enfant, un parent qui frappe toujours son enfant, un parent qui ne montre jamais un sourire à son enfant, qui est là toujours de façon autoritaire, c'est fragile pour l'enfant. Et cela le traumatise. Le parent ne sait pas qui est en train de traumatiser son enfant. Donc, les conséquences que nous avons déjà vues avec les enfants qui n'ont pas vécu dans des familles intègres, ce sont des enfants qui n'ont pas d'estime de soi. Ce sont des enfants qui, quand ils rencontrent des difficultés, ils ont du mal à pouvoir faire face avec ces difficultés. Donc ce sont des enfants qui peuvent devenir malades mentales, ce sont des enfants qui peuvent s'adonner à la toxicomanie de façon donc, simple, facile. Ce sont des enfants qui ont des problèmes de gestion de leur vie.
Docteur Nimona souligne que lorsqu'un enfant est pris en charge par des spécialistes, peut être suivi, mais il est aussi essentiel d'accompagner les parents pour qu'ils adoptent une attitude appropriée dans l'éducation de leurs enfants.
Il est très important alors que le parent prenne une place d'un parent éducateur, d'un parent qui donne la joie à son enfant, d'un parent qui est protecteur. Il faut que les parents évitent de corriger les enfants quand ils sont en colère. Parce que quand on est en colère, on ne peut pas gérer en fait, les mots, on ne peut pas gérer les actes. Donc il faut attendre que la colère soit finie et après on appelle l'enfant, on lui pense qu'il n'a pas été bien et on lui demande de ne plus faire ça. Et si jamais l'enfant refait, on peut donc lui dire qu'on va le punir, mais pas vraiment de façon très sévère.
Il recommande également aux parents d'être proches de leurs enfants, de s'intéresser à leur quotidien et de connaître leurs amis, car cela permet de prévenir les comportements inadaptés qui peuvent apparaître lorsque l'enfant n'est pas bien encadré ou protégé dès le départ.
C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.